fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Hallo zusammen, willkommen bei Kanal K in der Sendung Fenêtre sur l'Afrique, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Heute Abend berichten wir über die Politik von der Elfenbeinküste, Togo und Guinea. Wir werden mit dem ehemaligen Premierminister von Togo, Aguiyomi Kodjo, telefonieren. Er ist auch der Präsident von der Partei OBU und war Kandidat in der Präsidentschaftswahl vom 14. März in Togo. Aguiyomi Kodjo wird uns die aktuelle politische Lage in Togo aus seiner Sicht schildern. Viel Vergnügen auf Kanal K. Am Mikrofon begleitet euch Sylvain Amos. Bonsoir à l'Afrique, bonsoir Guinée-Togo, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, Congo, Sénégal. Bienvenue à tous dans Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Kanal K en Suisse alémanique. Merci d'être en direct avec nous. Pour l'actualité africaine de ce soir, nous ouvrons notre fenêtre sur trois pays, à savoir le Togo, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Nous nous rendons d'abord au Togo, un pays qui connaît toujours une très grande crise politique. Une atmosphère lugubre s'est installée depuis l'ouverture de la période de contestation des résultats du scrutin présidentiel du 4 mars dernier par le FRAC, Front républicain pour l'alternance et le changement, qui continue d'ailleurs de revendiquer la victoire de Jean-Pierre Fabre. Le Togo est-il au bord de l'implosion totale? Pour en savoir plus sur la situation politique de ce pays, nous aurons dans quelques instants en ligne, en direct depuis Lomé, M. Aguiyomi Kodjo, ancien Premier ministre sous le régime de Feu Gnassingbé et Yadema. Aguiyomi Kodjo nous situera encore une fois sur la crise politique qui secoue le Togo. Bien sûr, dans la deuxième partie de Fenêtre sur l'Afrique, nous allons nous rendre en Guinée-Conakry qui connaîtra le 19 septembre prochain le deuxième tour de l'élection et la toute première présidentielle dans ce pays après son indépendance depuis 1958. Nous aurons également en ligne, en direct depuis Conakry, le doyen des facultés de droit, Makarena Hassan, qui nous fera ses analyses sur les élections en Guinée. Et pour vous conduire ce soir dans cette émission, Gisela Rosato à la supervision générale, Josué Maoli et Esteban Gagnon assurent la programmation musicale. Bien sûr, Romain Koudodi me prête son soutien permanent depuis Bonn en Allemagne. Et vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique de ce soir au micro de Sylvain Amos. Amis fidèles auditeurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue au programme de Radio Kanal K. Avant de recevoir nos invités dans quelques instants, je vous propose d'écouter l'éditorial de ce soir sous la plume de Romain Koudodi.
Élection en Côte d'Ivoire. Que cherche le barbouze français bête à Ouagadougou? Je n'envie pas la France et je n'ai jamais rêvé y aller en tant que patriote. Elle n'a rien, sinon que la neige. D'où je viens, nous avons le café et le cacao qui les font jaser. Charles Blegoudé, président de la COGEP, Congrès panafricain des jeunes patriotes. À 2 mois d'une élection présidentielle fixée en Côte d'Ivoire pour le 31 octobre, qui s'annonce difficile dans le pays de Blé Goudé. Que viendrait faire un général français bien connu des belligérants ivoiriens dans le pays de Blaise Compaoré, président du Burkina Faso? La politique se mêle aussi des fois à la fiction et emporte avec elle des calculs et des intérêts mafieux de la France-Afrique. Coïncidence ou pas, les patriotes sont sur leurs nerfs et attendent avec pierre ferme les Français. Et déjà, il y a une semaine, le porte-parole des forces gouvernementales en Côte d'Ivoire, le colonel-major Adolphe Babri, a élevé la voix dénonçant une série de tentatives d'assassinat planifiées de certaines personnes. Conséquence, les patriotes de Charles Blé Goudé, mouvement des jeunes soutenant Laurent Gbagbo, actuel président de la Côte d'Ivoire, sont sur les nerfs contre les Français. Pourquoi la nomination du général Bett en sa qualité d'ambassadeur au Burkina a fait monter les tensions d'un cran à Abidjan? Nous avons fouillé pour vous l'histoire pour mieux connaître ce pur produit impérialiste français. Dans ce cas précis, pour la vérité historique, nous pesons nos mots comme du pesos, pour lever le voile sur le barbouze français nommé ambassadeur dans un pays limitrophe de la Côte d'Ivoire. Soldat de terrain, légionnaire, le général Emmanuel Bett est né le 15 septembre 1952 à Cherchel, Algérie. Il connaît bien l'Afrique et avait été témoin en poste en Côte d'Ivoire lors de la punition infligée aux Français sous Gbagbo. En quittant la Côte d'Ivoire, en 2004, il devient chef du centre de planification et de conduite des opérations à Paris. Promu général de division le 1er novembre 2005, il devient 7 mois plus tard directeur de la coopération militaire et de la défense au ministère des Affaires étrangères. Depuis octobre 2007, il est général de corps d'armée, officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite et titulaire de la Croix de la valeur militaire avec une citation à l'ordre de l'armée. Les mauvaises langues disent de lui qu'il est un ami personnel de Jacques Chirac et de Sarkozy et que sa nomination en sa qualité d'ambassadeur au Burkina chez Blaise n'est qu'une routine normale. Pour nous les sceptiques, ce n'est pas de la poudre aux yeux pour bénir les esprits crédules. Affirmons plutôt qu'il est en mission d'espionnage. Pour qui connaît Blaise Compaoré, impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara et de son amitié avec la France, qu'il a toujours soutenu et protégé, il n'y a point de doute que Paris est vigilant sur le déroulement des élections en Côte d'Ivoire et ne voit pas d'un bon œil Gbagbo dans une des élections franc et crédible. Voilà pourquoi, assurément pour être plus proche de ses intérêts, la France envoie Bett. Sans nul doute que le 31 octobre prochain ne sera pas une partie de poker pour les Ivoiriens nationalistes et les impérialistes français. Assisterons-nous encore une fois à ce slogan brutal, défensif des Ivoiriens, à chacun son français, ou plutôt à l'apaisement? Personne ne sait. Le tout dépendra du comportement des impérialistes français. Pour le moment, croisons le doigt et que nos cœurs battent à l'unisson dans l'intérêt général de l'Afrique, berceau de l'humanité.
Quel jeune Ivoirien de mon âge n'a pas chanté ce refrain? Quel jeune Ivoirien de mon âge n'a pas mangé de ses pains? C'était au début des années 90 et c'était la chanson du renouveau. Le multipartisme était désormais officiel en Côte d'Ivoire. Nous étions très jeunes, ne comprenant rien à la politique, mais c'était la la mode. Et cette chanson était notre code dans la lutte pour notre cause, pour un horizon qu'on voyait rose. Nos parents nés avant les indépendances n'aimaient pas cette chanson, mais nous, on ne les comprenait pas. On n'a pas connu la colonisation. On s'en foutait, on chantait notre chanson. C'était ces hommes nouveaux qui nous tenaient des discours nouveaux en nous promettant à tous du gâteau. Qu'avec eux, tout le monde aurait du boulot. Que sans eux, ce serait le chaos. Ils ont dit, nous avons la clé de votre Eldorado. Tout sera beau, ce n'est pas du pipeau. On a donc décidé de monter au créneau en criant haut et fort, trop c'est trop. À Oufoué, on a trouvé tous les défauts. Il a vieilli, il n'est plus dans le réseau. Pour le changement, il faut le mettre au repos. On veut du sang nouveau, car tout nouveau n'est pas toujours beau. Aujourd'hui, on a le moral à zéro. On ne peut même pas s'acheter un sachet d'eau, ni du caracoro, ni du beau flotto. Parce que on n'a pas moro. Pour avoir même Togo, il faut se lever tôt. Par contre, eux, ils se sucrent sur nos dos. En si peu de temps, ils ont construit de grands châteaux. Ces nouveaux grottos sont des gourmands totaux. Sous le couvert du drapeau, ils se servent à gogo. Et comme personne ne veut risquer sa peau, tout le monde regarde et nul ne dit mot. Vous avez dit démocratie. Pourtant, ils étaient nos espoirs pour une nouvelle gestion sans couloir. Pour nous, ces maîtres du savoir devraient avoir le sens du devoir. C'est pourquoi on a crié victoire lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Mais hélas, les détournements de fonds se sont multipliés. La magouille s'est amplifiée. La pauvreté s'est aggravée. Nos conditions de vie se sont empirées. Aujourd'hui, je m'en veux d'avoir chanté un jour pour fouet voleur. J'espère que le vieux me pardonnera du fond de sa tombe.
Pardonne, Nana.
Le vrai bonheur, on le l'apprécie que lorsqu'on l'appelle.
Nana Yachi, Pola Galier. Nana Yachi, Bela Kala Galier. Nana Sabari.
Et oui, il s'appelle Fadal Dey, un jeune artiste de la chanson ivoirienne qui emboîte le pas de Tikendia Fakoli, très engagé dans la politique ivoirienne et africaine. Fabi Kwasi, notre correspondante permanente à Lomé, est déjà en ligne pour le briefing de l'actualité au Togo. Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain Mos, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
Oui, les manifestations du FRAC, Front Républicain pour l'Alternance et le Changement au Togo, elles sont depuis quelques semaines réprimées par les forces de l'ordre. Est-ce que le FRAC a-t-il encore pu, malgré cela, tenir ce samedi ces marches de protestation, Fabi?
On ne peut pas le dire ainsi, mais c'est toujours un samedi bien chaud à Lomé. Comme depuis quelques 3 ou 4 semaines, les gaz ont encore sifflé, plus telle une pluie à baie en câblure. Les forces de sécurité ont usé et distribué des grenades comme des friandises pour disperser les populations de baie. Et pour le plaisir de lancer ces grenades, hein, dont les hommes habillés sont friands, en tout cas c'est l'impression qu'ils donnent, ils en ont arrêté, moto et personne, au moins 3 blessés pour le compte des bilans de ce jour. Et figurez-vous que les gaz ont été lancés dans l'enceinte de la Croix-Rouge, dans l'un de là, que des gens sont loués pour une sortie de deuil. Et l'autre information, encore les victimes, le médecin à l'hôpital de Baie a refusé de les soigner sous prétexte qu'elles sentent trop du lacrymogène. L'élément sonore est à notre disposition. Les auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique pourront l'écouter très prochainement. Et donc, Sylvain, ce 11 septembre, encore avant même que Jean-Pierre Favre ne vienne sur les lieux de la gendarmerie, la police ont distribué les gaz. Comme je le disais, à peine a-t-il fait irruption dans Baie que M. Favre a été accueilli avec les grenades. Il a été pourchassé à coups de gaz par un dispositif impressionnant de sécurité qui n'a cessé de tirer des grenades tout autour de son domicile. Une fois arrivé là-bas, une séquestration qui me dit à son nom presque le même sort pour Aglomé Kodjo, qui n'a pas eu le temps de sortir de chez lui. Les forces de sécurité ont bouclé également tout autour de son domicile. Donc c'est une violation assez flagrante des droits humains. Dans quelle partie de la Constitution certains citoyens de surcroît des leaders politiques n'ont pas le droit de sortir de chez eux sous prétexte que les marches n'auront plus lieu? Un véritable état policier qui démontre que les autorités n'ont que faire de la démocratie.
Oui, Fabi, vous qui êtes à Lomé, est-ce que la population est toujours déterminée et quand même face à cette répression de la police?
Oui, toujours déterminé. Dès que les leaders du FRAC font leur entrée dans Baie, il faut voir le mouvement de foule, le mouvement de rue. Et c'est justement pour éviter ces gens d'attroupement que les gaz sont distribués comme des petits cadeaux de fin d'année. On ne comprend pas l'usage abusif des gaz lacrymogènes dans Baie tous les samedis et tous les mercredis aux encablures de l'église Salem de Hankopé. C'est devenu maintenant un rituel. En tout cas, c'est des cinquantaines, des centaines de gaz qui sont lancés. C'est des fumées à n'en plus finir. Qui termine cette course contre la montre.
Fabi Kouassi, également face à la cherté de la vie au Togo, le groupe de réflexion et d'action contre la vie chère et pour les droits économiques, sociaux et culturels du Togo a lancé cette semaine un appel à la mobilisation de la population pour demander au gouvernement une meilleure condition de vie. Fabi, y a-t-il déjà une action de la part du gouvernement pour répondre à la demande de ce collectif pour la vie chère au Togo?
Vous savez très bien que le gouvernement togolais n'écoute pas les cris du peuple togolais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'achemine vers des lendemains très mouvementés avec cette mobilisation nationale. En tout cas, c'est le mot du gravesque dont vous venez de parler. Le gravesque, ce groupe contre la vie chère, qui reprend ainsi les aspirations du peuple en matière de revendications sociales après la démission voulue, entretenue par les centrales syndicales qui donnent l'impression d'être aux ordres du pouvoir en place. Bientôt 3 mois après l'augmentation du prix des produits pétroliers, et ces mouvements d'humeur et son cortège de morts, de blessés, d'arrestations, les syndicats ne font rien. Et c'est la raison pour laquelle le gravesque monte au créneau pour dénoncer avec véhémence d'ailleurs le silence du gouvernement malgré la misère ambiante. Face donc à la démission des gouvernants, ce groupe appelle la population à des actions musclées mais très pacifiques dans les toutes prochaines heures. Et je suis sûr que les produits pétroliers vont connaître encore une nouvelle augmentation. C'est ce qui explique d'ailleurs cette sortie musclée du collectif contre la vie chère. Et donc le Togo va vers des lendemains mouvementés. Les médecins le disent, le gravesque se veut menaçant. Une partie de l'opposition est dans les rues toutes les semaines malgré les gaz. La presse privée crie au musellement et au danger, lance un SOS. Les organisations de défense des droits de l'homme crient aux violations massives. Le Togo a vraiment régressé en quelques mois seulement. Depuis la présidentielle controversée de mars dernier, tout est à refaire en matière de liberté d'expression, de liberté de presse, du respect des règles fondamentales de la Déclaration universelle des droits de l'homme et par ricochet de la Constitution togolaise. Après 20 ans de soulèvement populaire, si on veut faire référence au 5 octobre 90, il a suffi que le pouvoir en place vide pour une énième fois de toute leur substance les élections par le dernier hold-up et son accord dit historique avec son ami Dikris Olympio pour que les Togolais se rendent compte que tout est à faire, à refaire et à parfaire. Le compteur est donc à zéro, avec comme léger avantage un paysage beaucoup plus éclairci. La balle est dans le camp de tous ceux qui sont épris des valeurs de dignité et de justice pour un Togo meilleur pour les générations à venir, comme cela a été d'ailleurs le rêve des pères de l'indépendance pour tous les enfants de la terre de nos aïeux.
Fabi, il y a 2 ans que Gilbert Humbo est à la primature. Quel bilan approximatif peut-on établir pour ces 2 ans passés à la tête du gouvernement togolais?
Sylvain, bon, c'est en effet le 7 septembre 2008 que Gilbert Ngo a été présenté au Togolais comme l'oiseau rare, puisqu'il a été déniché dans le cercle onusien, un peu comme un certain Eugène Adoboli. On se rappelle que dans son programme de gouvernance devant le Parlement, l'ex-monsieur Afrique du PNUD a promis changer le quotidien des Togolais au bout de 6 mois. 2 ans viennent de s'écouler et les Togolais sont toujours dans le statu quo. Les infrastructures dans un état piteux. Gilbert Ngo n'y a apporté qu'une touche latérite, avec des conséquences néfastes sur la santé des populations. Sous Ngo, les Togolais meurent toujours de morsures de serpents. Le personnel de santé réclame toujours des arriérés. Le CHU Toko n'a toujours pas de scanner. Sous Ngo, le syndrome de la déchira atteint son paroxysme. Les prix du carburant et ceux des produits de première nécessité ne cessent de flamber. Mais également sous Ngo, le gaspillage et la gabégie se poursuivent, avec seulement quelques points de personnes qui se sucrent nuit et jour sur le dos du contribuable togolais. Si le dernier voyage en Chine de Fort Yansimbé a coûté 2 milliards de nos francs aux Togolais, comme le disent les journaux, dans un pays où le citoyen a moins d'un dollar par jour, peine à trouver un repas par jour, est victime d'inondations, avouant que les 24 mois du PM mettent un bilan de cuisant échec. Et c'est dans ce Togo que Gilbert Ngo nous a dit qu'il n'est dans aucun parti politique. Et c'est dans ce même Togo que les Togolais l'ont vu, et sa collègue, lui et sa collègue du PNUD, Victoire Dobé, actuellement directrice de cabinet de Fort, battent campagne pour ce dernier à cœur joie. Bon, Gilbert Ngo, comme Eugène Adoboli et d'autres premiers ministres, Made in Togo, a montré ses limites, c'est-à-dire qu'il n'est pas en tout cas au service des Togolais, mais de celui qu'il a déniché au service de ses propres intérêts.
Fabi Kouassi, merci. Eh bien, c'était Fabi Kouassi, notre correspondante permanente à Lomé. Nous recevons à présent en direct depuis Lomé le premier invité de Fenêtre sur l'Afrique, Agbuyomé Messan Kodjo, ancien premier ministre sous le régime de Feu Gnassingbé Eyadema, président de OBU, organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire. Rappelons également que Agbuyomé Kodjo a été candidat à l'élection présidentielle de mars dernier au Togo. Il est aussi allié du FRAC, Front Républicain pour l'Alternance et le Changement au Togo. Un front d'ailleurs qui continue de contester la réélection de Faure Gnassingbé. Je pense que M. Agbuyomé Kodjo est déjà en ligne. Bonsoir M. Kodjo Messan Agbuyomé.
Oui, bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Kanalka en Suisse. L'Union européenne vient de débloquer 12 millions d'euros au Togo et pour l'aider à faire face à la crise économique. Et n'est-ce pas un camouflet pour le FRAC, Front Républicain pour l'Alternance et le Changement, et dont certains membres à l'extérieur sont à pied d'œuvre pour convaincre l'Union européenne dans le but d'accentuer les pressions sur l'actuel régime, Kodjo Agbuyomé?
Oui, moi je pense que c'est une bonne nouvelle pour le peuple togolais, parce que, bon, vous savez, c'est 19 pays ACP qui bénéficient donc de cette aide budgétaire. L'essentiel, donc, ce que nous recherchons, c'est que l'utilisation de ces fonds soit faite de façon efficiente et aille donc vers les populations les plus vulnérables.
Oui, pensez-vous que ces fonds seront utilisés à bon escient, en bonne qualité d'économiste, et surtout que le pays traverse une très grave crise politique?
Non, nous le souhaitons vivement. Vous savez, il y a une affaire qui fait polémique au Togo en ce moment, c'est les 3 milliards de moins que Faure Gnassingbé aurait dépensé dans ses voyages intempestifs et qui ne rapporte rien du moins au Togo. Je pense que il faut surveiller, nous allons demander en tant que représentants de l'Union européenne ici, de surveiller donc le déblocage de ces fonds et de surveiller également les réalisations qui vont se faire dans le cadre donc de ce projet. Parce que, bon, on ne peut pas demander l'aide internationale et en même temps donc accepter de ce que des gaspillages se font à partir de, en tout cas, les fonds ici mobilisés.
Parlons maintenant des marches de protestation du FRAC, puisque vous êtes allié du FRAC. Et si les marches du FRAC ont démontré à l'opinion internationale le mécontentement des Togolais face au scrutin de mars dernier, il était contestable et qu'elles ont atteint une limite donnée. Mais elles ne feront pas fléchir ni partir le régime. N'est-ce pas un échec plutôt pour le FRAC à partir du moment où le régime interdit les manifestations?
Non, je pense quand même que ce que fait le régime donc est abominable. Et l'un des succès majeurs donc du FRAC et de ses alliés, notamment au BU, et puis le CVU, qui est donc un mouvement citoyen, c'est d'attirer donc l'attention de la communauté internationale qu'elle s'est vite précipitée pour reconnaître donc des résultats du monde qui ne sont pas réellement l'expression des suffrages populaires. et que en fait donc les chiffres annoncés qui donnent victoire, la victoire donc à Fon Yassine ne sont que des chiffres factifiés et que du moins Fon n'a pas gagné du moins donc les élections. Au moins au niveau de la communauté internationale aujourd'hui, je pense que les données sont claires. Même la mission d'observation, lorsqu'elle a présenté son rapport, a reconnu donc de graves irrégularités qui ont entaché donc le scrutin, mais n'a pas eu le courage de toute façon de proposer des mesures invalidantes pour qu'on puisse reprendre, donc, reprendre les élections. Donc ce qui est clair, premier du moins, mais je dirais, succès donc, du FRAC et de ses alliés, c'est en fait aujourd'hui, la communauté internationale est sensibilisée donc, sur le fait que Fon n'a pas gagné les élections, sinon la contestation n'allait pas s'enfler hein, depuis pratiquement du moins, mais, 6 semaines. Pour les marques du FRAC, j'ajouterai également que même aujourd'hui, donc il y a eu des gaz lacrymogènes, on a blessé de toute façon beaucoup de militants et les motos du monde de ceux qui sont venus du monde à la marche ont été ramassés et amenés du monde à la gendarmerie. Je considère que c'est des actes attentatoires aux libertés publiques parce que la constitution togolaise garantit la liberté de manifestation et la liberté du culte aussi. Je crois quand même que ce recul important au niveau donc des libertés publiques et des droits humains est constaté aujourd'hui au niveau de la communauté internationale. Ce n'est pas parce que donc, l'Union européenne donne, dans le cadre du projet FLEX, donc 12 millions d'euros donc, au Togo, qu'elle n'est pas sensible, donc, en tout cas, aux cris et aux manifestations donc, de ceux qui sont pour la vérité des unes au Togo.
Agbiome Kodjo, restez toujours en ligne avec nous. Et Romain Koudodi, depuis Bono, me fait déjà signe qu'il est à l'année. Romain, bonsoir Romain.
Bonsoir. Monsieur Gabriel Agbiome Kodjo, bonsoir.
Bonsoir.
En dehors des marches réprimées avec violence et des coups de gourdin que certains leaders reçoivent, n'avez-vous rien de concret à proposer pour contraindre le régime à une négociation franche, puisque aujourd'hui déjà, vous-même, vous avez été empêché, selon nos informations, de se rendre à la manif?
Oui, nous avons fait une réunion donc la semaine dernière et nous sommes en train d'affiner de toute façon un projet qui, en tout cas, certainement aura l'appui donc, de la communauté internationale pour obliger donc, le régime de Fon Yassine à engager de franches discussions pour amener la confiance dans le pays et arrêter, si vous voulez, la violence systématique donc, des droits humains dans le pays. Plusieurs de nos compatriotes ont été encore arrêtés aujourd'hui, donc plusieurs sont blessés et leur moto est emportée vers la gendarmerie. Nous avons une proposition de sortie de crise. Le CVU, depuis le 19 mai, a sorti donc une proposition articulée autour de 22 points pour donc permettre, du moins que le pouvoir et du moins mais, les forces qui réclament l'alternance s'entendent sur un minimum donc, de plateforme politique avant de toute façon donc cette sortie de crise. Mais je ne comprends pas pourquoi le président de la République, du moins, est muet comme une carpe. Donc sur les démarches, sur les efforts diplomatiques que nous faisons pour engager du monde des discussions et permettre au Togo de retrouver donc la sécurité, le calme dont il a besoin pour reconstruire son économie et offrir, si vous voulez, du moins, comment je dirais, des emplois du monde à ses fils, puisque vous savez aujourd'hui que la situation économique dans le pays du monde est déplorable et que les pays qui nous entourent et qui n'ont pas été dotés par la nature comme le Togo, en tout cas, marchent mieux que le nôtre. Vous avez certainement entendu aussi que le Mali, premier pays du monde au sud du Sahara, va se doter dans les prochains mois d'un métro. Je pense quand même que c'est des indicateurs de progrès, d'évolution économique et sociale de ces pays-là, alors qu'ils ne sont pas aussi nantis que nous. Nous devons de toute façon aller vers une table de négociation et ne pas aller du monde à la soupe, du monde comme en tout cas nos collègues de Ago sont partis sans avoir négocié quoi que ce soit avec le pouvoir.
Oui, et Romain, vous avez des questions, allez-y Romain.
Oui, certains observateurs, M. Gabriel Agbiome Kodjo, pensent que c'est naïf de votre part de vouloir faire appel dans le procès de dissolution de OBU devant les juridictions togolaises dans la mesure où la justice subit l'ordre de l'exécutif. Que dites-vous?
Non, je pense que la démarche de OBU est une démarche, je dirais, crédible et intelligente. OBU n'a pas été reconnu par le ministère de l'administration territoriale. celle-ci a demandé l'invalidation de la candidature d'Agono Kodjo lors des dernières élections présidentielles au motif que Obu n'a pas de récépissé. La Cour constitutionnelle, sur la base des dossiers qui lui ont été fournis, a pris une décision en disant que Obu est un parti légalement constitué. C'est une décision de la Cour constitutionnelle. L'article 6 de notre Constitution dit que toutes les décisions de la Cour constitutionnelle sont insuffisantes de recours et s'imposent aux autorités civiles, militaires et juridictionnelles. Donc, dans tous les cas, si la procédure actuelle va au bout et qu'on dit que Obu est dissoute, ça veut dire que les Togolais aussi nous ont le droit de dire qu'ils ne reconnaissent pas la victoire de Fonia Singbe proclamée par décision de la Cour constitutionnelle, puisque la Constitution dit qu'on ne peut pas revenir sur toutes les décisions de la Cour constitutionnelle. C'est le 1er février 2010 que la Cour constitutionnelle donc, a déclaré que Obu est une formation politique légalement constituée. Le 25 juin 2010, le juge, le président du tribunal de première instance, Pao Elès Ogoyou, déclare, du moins qu'il a dissous, du moins Obu. Mais lui-même, le même jour, dit à des journalistes que le procès étant politique, il a pris une décision politique. Moi, je vais vous dire, sur le plan international, de toute façon, ça va gêner énormément le Togo si demain, sur les bases, sur la base des éléments que je vous ai donné, en tout cas la procédure actuelle, conduit donc, à une disparition définitive donc, de Obu. Donc, je suis confiant, pas confiant de toute façon dans, parmi, pas confiant en ceux qui vont rentrer justice, mais confiant à la Constitution, que s'ils font du n'importe quoi, en tout cas, ça va leur péter du monde en plein figure.
Oui, M. Agbemé Kodjo, parlant encore de votre parti Obu, et le procès est reporté encore pour la semaine prochaine, plus précisément le 14. Alors, quelle serait votre réaction s'il adviendrait que vous perdez de nouveau en appel et que Obu sera totalement dissous et par la justice togolaise?
Non, le 14 septembre prochain, c'est, nous allons, le juge va prendre une décision. Il va prendre une décision sur quoi? L'avocat de Obu a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. C'est l'article 104 de la Constitution qui le dit, que lorsqu'un justiciable pense que la loi qu'on lui applique est anticonstitutionnelle, s'il évoque, le juge arrête donc la procédure, c'est-à-dire de statuer, et saisit la Cour constitutionnelle pour demander son avis. Normalement, on n'a pas besoin de connaître l'avis de la partie adverse avant de saisir la Cour constitutionnelle. Bon, il y a eu un débat contradictoire, donc le 31 août, et le juge a dit qu'il a mis l'affaire en délibéré. C'est-à-dire que le 14, le juge va nous dire est-ce que le dossier va à la Cour constitutionnelle ou non. S'il dit non, ça veut dire qu'il va continuer la procédure. S'il dit oui, nous allons attendre une décision de la Cour constitutionnelle par rapport du moins à ce que l'avocat a évoqué. Mais dans tous les cas, si le juge dit non, donc le 14 septembre prochain, ça veut dire qu'il a violé la Constitution. Nous attendons de voir quelle sera du moins la posture que le juge va adopter dans cette affaire. Et je peux te dire que nous sommes confiants.
Oui, M. Agbemé Kodjo, revenons encore une fois à la crise politique au Togo. Agbemé Kodjo, pourquoi l'attelage GKIS Olympio et le RPT Parti Pouvoir ne reçoit pas votre assentiment?
Non, ce n'est pas notre assentiment qui est important. Ne reçoit pas l'assentiment du peuple togolais. GKIS Olympio, jusque-là, l'image qu'il a donnée donc aux Togolais, c'est quelqu'un qui luttait contre le régime évidemment. Les gens n'ont pas compris pourquoi il n'a pas soutenu et Fabre donc, au cours de sa campagne, au cours de sa candidature. Vous vous souvenez lorsque nous avions créé donc, le FRAC à Paris. Je suis membre fondateur du FRAC à Paris. J'avais posé une condition que GKIS Olympio s'exprime clairement que Jean-Pierre Fabre est son candidat et qu'il le soutenait. Mais il ne l'a pas fait. Et à l'époque, les gens considéraient que c'était des mesures dilatoires que Agbemé observait donc pour pouvoir se présenter. Si Olympio avait clarifié cette situation à l'époque, il n'aurait pas de problème aujourd'hui. Nous saurions déjà à cette époque-là à quel sein nous se vouer. Aujourd'hui, dans une crise où on demande que toutes les forces de l'opposition se mobilisent pour du moins arriver à l'alternance, voilà du moins GKIS Olympio qui part bagage et choses et va s'allier donc au RPT. Mais maintenant, tout ce qu'ils ont écrit, du moins dans le protocole d'accord, du moins ce qu'ils ont signé avant du moins de se mettre ensemble, rien ne se réalise. On nous a dit que dans 6 mois, on ferait du moins toute la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Jusqu'à présent, qu'est-ce que vous voyez? La première mesure de ce gouvernement de coalition FPT-ACO, c'était quoi? C'était d'augmenter le prix du pétrole. Et vous avez vu les réactions. Aujourd'hui, le gouvernement ACO est là, non? Vous voyez comment on gaspille de l'argent. 3 milliards de francs CFA pendant cet été pour des voyages qui n'ont rien rapporté au Togo. Vous imaginez le nombre de forages que nous pourrions faire avec les 3 milliards? Au moins, on fera au moins 3 000 forages. Et si au moins il y a 1000 personnes autour d'un point d'eau, regardez, au moins il y a 3 millions de Togolais qui n'ont pas d'eau, qui bénéficieraient de l'eau. Bref, je veux dire que un tel gouvernement qui aujourd'hui donc réprime les gens, qui aujourd'hui donc torture les gens, qui aujourd'hui du moins se permet de porter la main sur un élu de la nation, je considère quand même que nous ne pouvons pas applaudir cet attelage à gauche répété. Nous ne pouvons pas applaudir les randonnées qui se font du moins à Lomé. Nous ne pouvons pas applaudir les leaders de l'opposition qui sont encerclés chez eux à la maison et qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà de tout les actes que pose la coalition RPT-AGO. C'est pour cela que RPT-AGO ne reçoit pas l'assentiment des populations et que nous aussi nous dénonçons cet attelage-là parce qu'en fait c'est la cupidité et puis de toute façon l'amateurisme politique qui a conduit du moins, mais à mon avis, ou qui ont conduit à mon avis les responsables de l'UFC de toute façon à se livrer donc à leur adversaire de toujours.
Oui, Romain, vous avez des questions. Allez-y, Romain.
Oui, Monsieur Gabriel Agome Kodjo, vous êtes critique vis-à-vis de ce régime, mais par ricochet, le chef de l'État, Monsieur Faure Essom-Zina Nyasingbe, vient d'ester en justice contre la presse privée. Que pensez-vous de cette attitude du chef de l'État?
Non, je pense que la volonté de Faure Nyasingbe, qui est incapable de gouverner le pays, est de ramener le pays à un système de parti unique. Regardez ce qui se fait aujourd'hui au niveau de l'UFC. Regardez le sort réservé à Chaud, à Obu. Et puis, regardez également de toute façon ce qu'on fait avec la presse. Donc, en fait, c'est une stratégie mise en place avec donc, la violation massive donc, des droits de l'homme, l'utilisation du monde à outrance du gaz lacrymogène non conventionnel pour empêcher la contestation. Bref, fort, ne pouvant pas de toute façon participer à un dialogue ou à un débat contradictoire, proposer, du moins, un avenir meilleur au Togolais, de toute façon, est tombé, en tout cas, dans, la dictature la plus primaire qui consiste de nous empêcher de montrer la presse de s'exprimer. Mais dans tous les cas, nous soutenons, si vous voulez, le collectif donc de journalistes en danger. Et nous verrons de toute façon si ces procès peuvent avoir lieu au Togo ici et qu'est-ce que Faure va faire.
Oui, monsieur Agbemi Kodjo, et une dernière question pour vous libérer. Le CVU, collectif pour la vérité des urnes, dont vous êtes le coordinateur national provisoire, a fait un travail remarquable d'information et de sensibilisation et sur le plan national et international dans la crise politique que traverse le Togo. Mais depuis là, rien n'a réellement changé au Togo. Et comptez-vous toujours sur la communauté internationale pour résoudre la crise politique au Togo, Agbemi Kodjo?
La communauté internationale, c'est un appui. On serait un appui. Mais nous comptons sur la mobilisation du peuple. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce problème, c'est un problème togolais. Et je dis que les initiatives que nous allons prendre dans les semaines à venir, de toute façon, démontreront aussi bien de tout au pouvoir en place et à la communauté internationale que le peuple togolais a décidé à ne plus du moins accepter du moins du n'importe quoi.
Agbemi Kodjo, merci. Eh bien, c'était Agbemi Kodjo en direct depuis Lomé. Le portier togolais Kodjovi Obilade est toujours en rééducation en France. En effet, le vendredi 8 janvier 2010, alors que le bus qui transportait la sélection togolaise de football passait la frontière Congo et de l'Angola, où doit s'ouvrir ce dimanche 10 janvier la Coupe d'Afrique des Nations de football. Celui-ci a essuyé des tirs faisant des blessés et deux morts. 7 mois plus tard, c'est-à-dire le 3 août dernier, 4 militants cambidais ont été condamnés à des peines de prison dans l'affaire de la fusillade contre le bus de l'équipe de football togolaise lors de la CAN 2010 en Angola. Mais des organisations de défense des droits de l'homme dénoncent un procès politique. Adebayor Chehi, le capitaine des Éperviers, démissionna plus tard de la sélection togolaise car troublé par les événements de Cambinda. 8 mois après ce drame, pour en savoir plus sur l'évolution de ce dossier, nous recevons ce soir, dans quelques instants, et un des rescapés de Cambinda qui est toujours en rééducation depuis 5 mois au centre de Kerpap à Lorient en France. Ce jeune gardien de 26 ans, père de famille, est en fauteuil roulant et pour la plupart du temps, il commence à peine à remarcher et à garder, et à garder beaucoup de séquelles. Kodjovi Obilade a une faible chance de retourner sous les pelouses. Mais le gouvernement togolais et la Confédération africaine de football fuient leur responsabilité depuis quelque temps pour indemniser ce portier dont la carrière de football est terminée. Et j'espère qu'il est déjà en ligne. Nous le recevons tout de suite. Kodjovi Obilade, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique. Vous êtes l'un des rescapés de la fusillade de Cabinda. Obilade, comment peut-on résumer actuellement votre situation, surtout votre état de santé?
Actuellement, mon état de santé, c'est en grosso modo, c'est un temps de scie. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas. Actuellement, j'ai encore refait une opération, donc ça va pas du tout. Le fait d'être pensif, de penser à ma carrière tous les jours, à ce que je vais devenir, donc pour le moment, c'est dur.
Oui, et c'est très dur. Ouais. Question difficile, hein, Cabinda. Et quand vous en pensez, hein, et quels souvenirs en gardez-vous, Obilade?
Que des mauvais souvenirs, hein, que des mauvais souvenirs, surtout de l'Afrique. Parce que vu comment ça s'est passé, je pense que nous, les Africains, on est bien unis. Quels que soient les conflits, apparemment, le foot n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Nous, on n'est pas armés. On est des innocents, je ne vois pas pourquoi ils tirent sur nous. Donc moi, je trouve ça un peu aberrant et dégoûtant. Ce n'est pas une bonne image de l'Afrique.
Et oui, et si c'était à refaire, Obilade, allez-vous jouer encore pour le Togo?
Ouais, dans le cas contraire, je ne peux pas dire grand-chose. Aujourd'hui, si je dis j'en veux aux Togolais, aux Angolais, ça ne va rien changer sur ma vie. Et si c'est à refaire, hein, le Togo restera toujours mon pays. Et voilà, aujourd'hui, je ne peux pas décider. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Et pour le Togo, aujourd'hui, je peux dire je ne sais pas trop et je ne sais pas ce que le bon Dieu me réserve. Donc, je ne peux pas décider. On ne peut jamais dire jamais, quoi. Ça ne se dit pas. Donc, après, j'attends ce que le bon Dieu me réserve.
Oui, on a évoqué récemment une aide que le gouvernement vous aurait accordée. Et 30 millions de francs CFA. Avez-vous le sentiment d'être assisté après ce drame de Cabinda?
Au fait, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Tiao, est venu me voir. On a parlé, il m'a fait savoir comme quoi le gouvernement veut m'aider. Et ça n'a rien à voir avec les sous de l'assurance, que c'est le gouvernement qui me porte l'aide. Donc du coup, il m'a remis juste un papier comme quoi ils vont me faire un virement de 35 millions de francs CFA. Donc après, bon, il m'a dit 72 heures. Donc ça fait pratiquement 3 semaines. Bon, j'ai rien eu, j'espère rien. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, tant pis. Et moi, j'irai jusqu'au bout. Et je pense que même 35 millions ne coûte pas une vie humaine. Donc moi, je veux une vie stable, avoir mon univers. Et au jour d'aujourd'hui, je traîne mes fesses par terre pour entrer chez moi et j'ai du mal avec mes enfants. Donc je pense que c'est dur pour mes amis et ma famille. Donc moi, je demande réparation aujourd'hui. C'est tout ce que je leur demande, que je sache que voilà, j'étais parti là-bas pour défendre ma couleur que j'aime beaucoup.
Oui, Obilade, et dans combien de temps va durer votre rééducation au centre de Kerpap à Lorient?
Là, actuellement, c'est mal parti. Normalement, je devais passer à l'hôpital du jour, c'est-à-dire partir de la maison pour aller faire la rééducation. Mais bon, ça s'est mal passé cette semaine. J'ai encore fait une malaise. Autant pour moi, un malaise. Et après, bon, selon les analyses, il doit encore repasser sur une table d'opération. Donc, je pense que la route est encore longue. Et j'espère que si les le gouvernement togolais ou le monde entier m'écoute aujourd'hui, et voilà tous mes pétrins, tous mes soucis. Je vais m'en sortir une fois de bon, même si pour marcher et boiter, ça me ferait plaisir parce que j'en ai marre d'être assis tous les jours et de ne pas faire ce que je faisais avant. Ça m'attriste beaucoup, surtout mes enfants et mes proches et ma famille.
Donc vous êtes toujours en fauteuil roulant?
Ouais, je suis toujours en fauteuil roulant.
Kodjovi Obilade, merci et nous vous souhaitons un bon rétablissement.
Merci.
Eh bien, c'était le portier togolais Kodjovi Obilade depuis la France. Passons maintenant à la page politique sur la Guinée. Premier signe inquiétant avant le second tour. Le deuxième tour de l'élection présidentielle est pour dimanche 19 septembre prochain. Les deux candidats en lice affûtent déjà leur âme pour les campagnes de sensibilisation. Mais déjà cette semaine, la tension monte d'un cran entre les partisans de deux candidats en lice. L'UFDG de Sélou d'Alain Diallo, Union des Forces démocratiques de Guinée, et ses alliés montent au créneau contre la coordination ethnique de déstabilisation du pays en accusant les Malinkés et une ethnie de la Guinée et autres partisans d'Alpha Condé. C'était à l'issue d'une conférence de presse que le parti a organisée jeudi dernier au siège du parti de l'Union des Forces Républicaines UFR de Sidia Touré, si à Kolea, Lankamboudi, dans la commune de Matane en Guinée. L'accord signé vendredi 3 septembre 2010 à Ouagadougou par les deux candidats guinéens et par le médiateur Blaise Compaoré du Burkina Faso s'intitule « Protocole d'entente pour une élection apaisée en Guinée ». Dans ce document, « Protocole d'entente pour une élection apaisée en Guinée » et Alpha Condé s'engage à mener une campagne apaisée selon le code de bonne conduite auquel ont adhéré et pas écrit. Il s'engage aussi à prendre les dispositions nécessaires afin que les militants fassent preuve de retenue lors de la campagne électorale. Ils appellent les forces armées de sécurité à accompagner de façon constructive le processus électoral. Rappelons que le premier tour a été entaché de plusieurs irrégularités et a provoqué quelques problèmes ethniques car certains observateurs de la vie politique guinéenne ont affirmé que le vote a été à 100% ethnique. À ce sujet, nous recevons tout de suite en ligne, en direct depuis la Guinée-Conakry, M. Makarena Hassan, doyen de la faculté de droit à l'université de Conakry. Bonsoir, M. Makarena Hassan.
Bonsoir, mon frère.
Merci d'être en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique. Makarena Hassan, les deux candidats en lice pour le deuxième tour des élections en Guinée ont signé le 3 septembre dernier, sous la facilitation de Blaise Compaoré, un accord intitulé « Protocole d'entente pour une élection apaisée en Guinée ». Et selon vous, Hassan, est-ce que toutes les dispositions sont déjà prises pour la neutralité de l'administration pour le deuxième tour en Guinée, avec surtout le clivage ethnique qui devient un fait réel en Guinée?
Bon, en fait, la Guinée, pour les élections, ce n'est pas question de la neutralité de l'administration, mais plutôt de la neutralité de la Commission nationale électorale indépendante. En fait, c'est elle qui a organisé les élections. Et avant-hier même, il y a le président de la CENI et le chargé de la planification de la CENI qui ont été condamnés à une année de prison ferme et aussi au paiement d'amendes. Ensuite, la perte de droits civiques pendant 2 ans. Cela signifie que le problème se situe surtout au niveau de la CENI, non pas de l'administration. Maintenant, pour qu'il y ait une élection libre et transparente, il faut nécessairement, comme l'autre parti avait demandé, et a posé 24 conditions. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 8 conditions sur 24 qui sont remplies. Alors que ceux-ci ont demandé, tant que les 24 conditions ne sont pas remplies, c'est-à-dire le camp RPG, ils n'iront pas aux élections. Donc, globalement, dans ce cadre, c'est dans ce sens que c'est dans ce climat que nous vivons en Guinée.
Oui, et nous sommes à 8 jours de l'élection du deuxième tour en Guinée. Et quelle est la tension qui règne actuellement en Guinée et plus précisément à Conakry, la capitale? Et le parti UFDG et ses alliés dénoncent déjà les comportements des partisans de Alpha Condé et qui déchirent les banderoles et les effigies de Selou d'Alain Diallo.
Donc, contrairement à ce que nous avons appris, c'est plutôt les partisans de l'UFDG qui sont en train de déchirer les banderoles, les supports publicitaires de RPG. Parce que le 6 de ce mois, le 6 septembre, à 2h du matin, une voiture a été arrêtée avec des gens proches de candidats de l'UFDG et qui ont été conduits à la gendarmerie de Ratoma, qui était en train de déchirer les banderoles de RPG. Bon, c'est l'information dont moi je dispose. J'ai essayé de demander le milieu des journalistes, le camp des états-majors des partis politiques, mais je n'ai pas eu une information contraire à celle que je viens de vous donner. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais les gens ne sont pas informés. Les sources d'information ne confirment pas. Auprès de ces deux partis, de ces deux grands partis, et aussi auprès de la plupart des journalistes qui s'intéressent à la vie politique, et je n'ai pas d'informations inverses.
Oui, Macarena Hassan, le bruit court également qu'en Guinée et que beaucoup de vos concitoyens voteront l'opposant Selou d'Alain Diallo. Et confirmez-vous ces rumeurs et pour quelles raisons?
Bon, en réalité, en Guinée, les alliances sont naturelles parce que la Guinée a un passé. On ne vote pas en Guinée pour un candidat, mais on vote pour une ethnie. Et les votes sont fonction encore des alliances interethniques. C'est pourquoi la confirmation dite de cette rumeur ne semble pas être fondée pour la simple raison de ce que je viens de vous dire. On ne vote pas pour un candidat, mais pour une ethnie, pour une région. Et les alliances sont naturelles. De telle sorte que les alliances scellées déjà, on ne peut pas les défaire. Pour preuve, tous les candidats qui ont fait des alliances que les Guinéens appellent contre-nature, il y a eu des problèmes. Donc c'est pourquoi c'est difficile de confirmer cette rumeur et je ne crois même pas la possibilité en tenant compte de la réalité sociologique de la Guinée.
Oui, monsieur Macarena Hassan, selon vous, pourquoi le vote en Guinée est purement interethnique?
C'est lié à l'histoire de la Guinée, parce que les premières élections en Guinée en 1944 est née de l'ethnie et de la région. Depuis lors, toutes les élections qui se sont déroulées, les leaders politiques n'ont pas pu chercher leur bastion que dans leur ville natale, ou dans la majorité de leur ethnie. Donc ça, c'est depuis la naissance de la démocratie en Guinée jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi les Guinéens doivent beaucoup faire pour changer cette situation. Parce qu'en résumé, qui dit élection en Guinée dit ethnie et violence. De 44 jusqu'à nos jours, il y a toujours eu de violence. Voilà une petite réponse à la question que vous m'avez posée.
Oui, M. Macarena Hassan, le premier tour a été entaché de plusieurs irrégularités. Est-ce qu'un nouveau système est mis en place pour éviter ces mêmes erreurs et pour le second tour, surtout au niveau du fichier électoral?
Bon, en réalité, il y a eu 24 conditions pour éliminer les irrégularités que le RPG a demandées. Sur les 24, il n'y a eu que 8 qui ont été remplies. Donc il reste 16 conditions qui n'ont pas été remplies. Ça veut dire que la possibilité d'irrégularité reste énorme. Par exemple, voter sans enveloppe, alors que la loi électorale est très claire, il faudrait qu'on vote, le bulletin doit être dans une enveloppe. Et cela a permis au premier tour qu'il y ait eu beaucoup de fraude, parce que les gens venaient avec beaucoup de bulletins en poche. Une fois dans les urnes, on les glisse. Alors que si c'était par enveloppe, on ne peut pas mettre deux bulletins dans une même enveloppe. Également, il est demandé à ce que la liste électorale soit affichée par bureau de vote. Parce qu'on s'est rendu compte au premier tour qu'il peut y avoir 100 électeurs, il peut y avoir 100 électeurs, alors qu'en réalité, il y a 200 qui votent. Donc, compte tenu de ces multiples irrégularités, on a essayé de tout faire pour qu'il y ait, la possibilité d'éviter d'autres irrégularités. Donc, en grande partie, nous sommes à ce niveau, on est loin de remplir les conditions.
Monsieur Macarena Hassan, merci.
Eh bien, nous sommes à 6 minutes de la fin de cette émission Fenêtre sous l'Afrique. Et pour finir en toute douceur cette émission, je vous propose d'écouter Ati Adani. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Vous pouvez réécouter cette émission sur Togo City, MO5 ici Lomé. Ce sont des sites d'information togolais que nous remercions déjà très vivement. Et pour l'information, pour le relais d'information, et ce n'est pas un travail aussi facile que ça. Nous remercions encore une fois tous nos collaborateurs, notamment Romain Koudouati depuis Beaune, Fabien Kouassi depuis Lomé, à la console technique Josué Manley Esteban Gagnon, supervision générale Gisela Rossato. Moi-même au micro, je m'appelle Sylvain Amos. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.
Africa, 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 Nyelolo. Mama Africa, when Daniel Lolonto. I don't see what you need, so they be me ke. Adino badino Africa, Africa,